voix nue. Toute cette semaine, Céline Duchesnay rencontre Catherine Robbe-Grillet. Ce soir, une femme double, une plume au service du sadomasochisme.
Elle fut l'épouse aimante d'un grand écrivain, pape du nouveau roman. Elle est une sulfureuse maîtresse de cérémonie sadomasochiste. Selon la situation, le moment de la journée ou de la nuit, elle s'appelle Catherine Robbe-Grillet ou Jeanne de Berg. Son nom de plume, son nom de dominatrice dans le monde du sadomasochisme. Troisième épisode de la semaine, en votre compagnie, Catherine Robbe-Grillet. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons vu hier comment vous êtes entrée dans le monde du sadomasochisme, l'initiation qui a été la vôtre auprès de votre époux, Alain Robbe-Grillet. Nous avons vu aussi la constitution d'un couple libre à la sexualité singulière, une sexualité différente que vous allez avoir envie de défendre de votre plume, puisqu'en 1956, vous publiez votre premier écrit, L'Image, aux éditions de Minuit, récit sadomasochiste. Alors pour commencer, j'aimerais que vous nous en retraciez l'histoire, Catherine Robbe-Grillet.
Je voudrais dire tout de suite qu'effectivement, comme vous le dites dans votre chapeau, il y a Catherine Robbe-Grillet d'un côté, qui est quelqu'un de plutôt tolérant, facile, rieur, gay, et qui a de l'autre côté Jeanne de Berg, qui est le contraire, plutôt autoritaire, peu douée pour, dans ses cérémonies, le rire, ou le fun, comme on dit. Donc vraiment, il y a deux personnes. Alors, comment est-ce qu'elles sont nées ? Il y a eu d'abord ce récit qui s'appelle, c'est pas un récit d'ailleurs, c'est un roman, qui s'appelle L'Image, que j'ai écrit en 1956, sous le nom de Jean de Berg. Et on m'a souvent demandé pourquoi. Et j'ai dit, mais le narrateur est un homme. Et c'est le récit, l'éducation d'un maître. On n'a pas vu ça comme ça au départ, mais pour moi c'est quand même ça. Il y a deux femmes, une dominatrice qui s'appelle Claire, et sa soumise, qui s'appelle Anne. Elle invite un tiers qu'elle connaît à peine, un homme qui lui plaît, Claire, donc invite cet homme, à venir assister à certaines séances où elle domine de façon assez dure, d'ailleurs, la petite Anne. Et peu à peu, on comprend que, en réalité, cette Claire prend cette petite Anne comme son image, comme son reflet, pour indiquer de façon détournée la façon dont elle-même, Claire, aimerait être dominée par ce garçon. Donc, en réalité, c'est l'éducation d'un maître, beaucoup plus que ce qu'on a dit, un livre uniquement sadomasochiste, où il y a des rapports uniquement de domination, mais il y a quelque chose là qui court à travers le livre. Bon, alors là, à l'époque, j'étais quand même encore soumise. Donc, si vous voulez, il y avait quelque chose qui était en train de cheminer. Alors, comment Jean est devenu Jeanne ? Ça s'est fait peu à peu. On change dans une vie. Et il se trouve que, dans ma grande liberté de vie et de rapport sexuel, qui était aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, j'ai rencontré un garçon qui était un admirateur de Robbe-Grillet, des films de Robbe-Grillet, et qui lui-même était dominateur. Et il s'est établi des rapports à trois, où d'une part ce garçon que j'appelle Vincent, dans Alain, était à la fois un admirateur et un disciple de Robbe-Grillet, et en même temps me dominait moi, avec l'accord d'Alain. Donc, c'était un rapport à trois assez heureux. Je pourrais parler, d'ailleurs, faire une parenthèse avec Simone de Beauvoir et Sartre, qui avaient ce même genre de liberté dans les rapports sexuels, et ça se passait pas bien du tout. Là, ça se passait bien. Et il se trouve que ce garçon, peu à peu, un jour, a voulu renverser les rôles. Mais il gardait la maîtrise. C'est-à-dire que je ne faisais que ce qu'il avait envie que je fasse. Il n'avait pas envie que je le gifle, il n'était pas question que je le gifle. Il n'avait pas envie, il voulait avoir des coups de fouet, il voulait avoir la fessée, je lui donnais la fessée. J'étais dominatrice, à la fois dominatrice et soumise, si vous voulez. Je ne faisais que ce qu'il voulait, il gardait la maîtrise. Et d'ailleurs, Sade pratiquait ce genre de choses. Il allait chez les prostituées se faire fouetter, mais les prostituées étaient à son écoute. Elle ne faisait que ce qu'il voulait. Donc, j'en reviens à ce Vincent. Donc, j'étais soumise à ce moment-là, dans ses désirs. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de changer. Tout d'un coup, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes et de faire ce que j'avais, moi, envie de faire. Et là, les rapports ont changé. C'est-à-dire que j'ai commencé, moi-même, à organiser des petits cérémoniales discrets et qui ont pris peu à peu de l'ampleur.
Mais alors, comment donc cette transformation dont vous nous parlez, pourquoi est-ce qu'elle est associée à ce nom, Jeanne de Berg ?
Alors, vous me direz, pourquoi Jeanne de Berg ? Ça a d'abord été Jeanne de Berg. Hein. C'est un nom que j'ai trouvé un peu par hasard, avec Alain d'ailleurs, parce que il y a Hergé à Berg. Puis c'est un nom que j'avais trouvé dans la correspondance de ma grand-mère. Je ne peux pas dire qu'il y ait une raison particulière. J'ai trouvé que c'était assez joli. Alors, pourquoi ce passage de Jean à Jeanne ? Parce que Jean de Berg, il écrivait une fiction. L'image est une fiction. Une fiction qui, d'ailleurs, a cette caractéristique qu'elle est très différente de l'histoire d'eau. L'histoire d'eau était parue quelques mois avant.
Et d'ailleurs, vous dédiez l'image à Apolline Réage.
C'est ça, oui. Et l'histoire d'eau est absolument invivable. Enfin, c'est donné comme un pur imaginaire, une impossibilité totale. Alors que l'image est entièrement vivable. Je ne l'ai pas vécu à l'époque, je l'ai vécu postérieurement. J'ai vécu certains épisodes, ce qui se passe à Bagatelle, par exemple, ou enfin différents épisodes qui étaient tout à fait vivables.
Donc ce qui se passe à Bagatelle, vous faites allusion à cet épisode de l'épine de rose, par
voilà,
exemple.
Voilà, c'est ça, l'épine
vous
de rose.
Vous pouvez nous en dire
la
quelques
rose
mots
avec une... Oh, c'est au cours d'une visite de Bagatelle, la dominatrice demande à la petite Anne de voler une rose. Après, elle se retire avec elle dans un bosquet, avec l'homme qui est là, le témoin, celui qui regarde, et elle lui dit « mais cette rose, il faut la cacher, parce qu'il est interdit quand même de cueillir une rose ». Et elle lui fait soulever sa robe et elle accroche la rose sous la robe grâce à l'épine qu'elle enfonce dans la chair, au niveau de l'aine à peu près. Donc, si vous voulez... C'est une jolie scène, enfin pour ceux qui aiment ce genre de choses, évidemment, c'est très particulier. Mais on peut le vivre, ça n'est pas impossible. Tandis que l'histoire d'eau était vraiment impossible, et écrite comme ça. Bon, alors, donc il y a Jean de Berg, et pourquoi tout d'un coup on passe à Jeanne de Berg, beaucoup plus tard, quand j'ai écrit « Cérémonie de femme ». Parce que le narrateur de l'image est un homme, mais... Cérémonie de femme et le petit carnet que j'ai écrit postérieurement, ce sont des témoignages. C'est le récit de ce que j'ai organisé, de ce que j'ai vécu en tant que dominatrice. Et c'est évidemment une femme. Je ne pouvais plus garder ce nom de Jean de Berg. Et c'est devenu donc Jeanne de Berg.
Alors Catherine Robbe-Grillet, pourquoi est-ce que vous avez dédié ce livre à Apolline Réage ? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez ? Bon, j'imagine évidemment vous aviez
lu le livre. L'introduction, c'est pas moi qui l'ai écrite, hein. C'est Alain. L'avant-propos est écrit par Alain.
Mais le livre est tout de même dédié à Apolline Réage.
Alors, justement, parce que mon mari et moi-même d'ailleurs, on a été très 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 frappés par cette histoire d'eau. Faut imaginer l'époque, en 1956, ce qu'était la France. Ça a été vraiment un tremblement de terre, si je puis dire, à la sortie de ce livre. Et donc, Alain a voulu le dédier à Apolline Réage. Et puis, il a circulé, comme ça, il y a eu une rumeur, comme quoi l'image avait été écrite par Apolline Réage. Évidemment, c'était faux.
Catherine Robbe-Grillet, on peut rappeler tout de même que l'image a été censurée.
Oh là là, l'image, oui, a eu droit aux trois interdictions, c'est-à-dire à l'affichage, à la publicité, à la vente, et même il y a eu des policiers qui sont venus aux éditions de Minuit, puisque c'était là que l'image a été éditée. Et je crois que Jérôme Lindon a fait un petit paquet avec une faveur rose qu'il a remis à la police. Enfin, ça a été brûlé. Enfin, je ne me souviens pas. Mais non, c'était Alors, justement, si vous voulez, Jean de Bergue, ça s'explique par le fait que c'était tout à fait difficile d'écrire ce genre de livre. Il fallait absolument avoir un pseudonyme. Et quand la police est arrivée aux éditions de Minuit, Jérôme Lindon a dit qu'il avait reçu ce manuscrit par la poste et qu'il ne savait pas du tout de qui il s'agissait. Et donc, l'anonymat est resté pendant très longtemps, mais il circulait des rumeurs quand même.
Comme quoi c'était vous.
Il circulait des rumeurs, et je m'en suis aperçue d'ailleurs au moment où j'ai fait paraître Cérémonie de femmes, c'est beaucoup plus tard, en 85, je me suis aperçue qu'on disait déjà que c'était soit Alain, soit moi.
Et pourquoi ce besoin d'écrire cette histoire-là en particulier ?
Alors, je veux dire, je reviens un peu en arrière, c'est que je dois dire que les mentalités ont quand même beaucoup bougé dans les années 60, 68, et que ce livre a été édité dans un club de livres qui s'appelait Françoisir. Donc, si vous voulez, il était tout à fait sulfureux, et puis dans les années 70, il l'était plus du tout. Et c'est paru en livre de poche, enfin, c'est... Donc, les mentalités, quand même, ont beaucoup changé.
Et alors, cette envie d'écrire, et cette envie d'écrire ce type de récit, est-ce que c'était quelque chose que vous portiez en vous depuis un moment ?
On en parlait beaucoup avec Alain, tout de même. C'était, je dirais pas l'unique chose dont on parlait, mais on en parlait beaucoup. Et je crois que c'est venu justement après l'histoire d'eau. Le fait qu'il fallait écrire sur ce sujet quelque chose effectivement de réalisable. Alain Robert... Et Alain m'a toujours poussé à écrire.
Voilà, c'est ce que j'allais vous
toujours.
Dire.
Toujours. Je ne croyais pas en moi. Je ne pensais pas que je pouvais écrire. Et c'est lui qui m'a poussé. Qui m'a poussé et qui, évidemment, a regardé le manuscrit, m'a aidé. Mais c'est lui qui m'a toujours poussé à faire tout ce que je faisais.
Et cet intérêt que vous éprouvez pour la sexualité, la fantasmagorie, c'est quelque chose aussi qui vous passionne depuis longtemps ?
Oui, absolument. J'ai toujours été intéressée par les fantasmes, par la sexualité et ce que les gens avaient dans la tête. En général, quand on a affaire à des fantasmes un peu bizarres, un peu même risibles quelquefois, les gens rient. D'un ricanement un peu gêné, un peu... Mais ils rient. Et moi, ça ne me fait pas rire. J'ai jamais ri. Je prends ça toujours comme quelque chose d'intéressant de la faculté de l'imaginaire. Et j'ai quelquefois eu affaire à des fantasmes tout à fait bizarres. Et quand on pratique le sadomasochisme, particulièrement. Et j'avais imaginé, à un moment... organiser ce qu'on appelait la grande fantasmatique, c'est-à-dire faire une espèce de répertoire de tout ce que les gens avaient dans la tête. Et puis, bon, j'y ai rapidement renoncé. C'était un labeur d'une envergure considérable et pratiquement infinie. Bien qu'il y ait des fantasmes qui reviennent tout le temps, qui sont quand même prééminents, et d'autres qui sont rares. Par exemple, là, je vais choquer, mais enfin, je le raconte quand même. Un garçon qui, une fois, m'a raconté la chose suivante. Ce qui l'excitait, c'est de penser qu'il jetait des nourrissons contre des murs. J'étais sidérée, vraiment. Inutile de vous dire qu'il ne l'a jamais fait, que c'était sa fantasmagorie et qu'il y a quelquefois, dans les têtes, des choses étonnantes. Mais bon... En général, c'est quand même plutôt le fétichisme des pieds, ce genre de choses-là est très courant. Généralement masculin, d'ailleurs, le fétichisme masculin.
Je pensais aussi à ce bûcheron qui vous avait écrit et qui avait aussi des fantasmes de torture très particuliers. Oui. Donc, quelque part, je ne sais pas si on peut employer le terme de bienveillance vous concernant, mais vous avez une forme de bienveillance aussi
oui.
Pour entendre...
Oui, alors ça, je voulais justement vous en parler... Quelquefois, j'ai affaire à des demandes qui me sont faites par des gens que je trouve touchants, extrêmement sincères et très demandeurs. Et je me laisse attirer justement par ça, par ce côté touchant, par ce besoin immense car il y a quelquefois des besoins vraiment presque vitaux. Et je suis amenée à leur répondre et à faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et je sens quelquefois, finalement, que je suis une bienfaitrice et que j'ai quelquefois affaire à des gens qui sont tellement reconnaissants que je suis venue finalement à leur secours, qu'ils m'envoient des lettres très touchantes et très émouvantes, comme ce bûcheron, effectivement. Et souvent, effectivement, moi, je me conçois comme une bienfaitrice, sans me laisser aller trop au-delà. Parce que quand vous répondez à des demandes très fortes, mais qui ne sont pas franchement vos désirs à vous, vous vous laissez entraîner sur un terrain qui n'est pas franchement le vôtre. Et on peut user son propre désir. Donc j'ai été amenée plusieurs fois à dire non. Non, je ne veux pas parce que bon, je réponds oui, je réponds à votre désir, ça vous fait un bien fou, et en même temps, moi ça use mon désir, et puis en plus, je réponds à votre désir une fois, puis vous aurez peut-être envie deux fois, et là j'irai non. Alors autant dire non tout de suite. Ce qui fait que c'est quelquefois oui, c'est quelquefois non, mais c'est vrai que je me considère comme une bienfaitrice.
On peut rappeler aussi, Catherine Robbe-Grillet, que l'argent ne rentre jamais en ligne de compte vous concernant.
Non, jamais. Et dans l'opinion générale, toute dominatrice, je ne sais pas pourquoi, on pense toujours qu'elles se font payer. Alors, bien sûr, il y a énormément de dominatrices professionnelles, auxquelles je rends hommage d'ailleurs, parce qu'elles rendent un service considérable. Quelquefois, je dis même en riant que la sécurité sociale devrait les rembourser, car elles répondent à quelquefois un besoin vital. Bon, ça n'est pas mon cas. Je n'ai jamais voulu rentrer dans des rapports d'argent, parce que ça met le doute sur le désir. J'ai toujours proclamé que moi, j'organisais mes cérémonies par pur plaisir. Plaisir de moi-même et de celles qui m'entourent, des dominatrices qui sont dans mon petit clan, si vous voulez, dans mon cercle. Et si vous introduisez un rapport d'argent, le doute s'installe. Quoi que vous disiez, mais non, je le fais pour mon propre plaisir. Non, s'il y a de l'argent, le doute est là. Et je ne veux pas qu'il y ait de doute. Je veux qu'on sache que je fais ça par pur plaisir. Mon plaisir à moi, évidemment, et de celui qui est, ou celle qui est en face de moi, qui est soumise. Ça, c'est très important pour moi. Et peut-être pour la cause du sadomasochisme en général, d'ailleurs.
Catherine Robbe-Grillet, vous avez raconté aussi dans Cérémonie de femmes, sur laquelle on reviendra demain, mais que vous avez pu observer différentes scènes sadomasochistes, notamment à New York, où vous vous êtes rendue plusieurs fois à la fin des années 70-80. Oui. Est-ce que vous pourriez établir une comparaison entre la scène SM new-yorkaise et la scène SM parisienne? Est-ce qu'il y a des points en commun?
Alors, j'ai beaucoup fréquenté les clubs à New York, qui existaient dans les années 70, début des années 80, alors qu'il n'y avait rien en France. On a suivi postérieurement. Et je suis allée beaucoup dans ces clubs, qui s'appelaient à l'époque Château 19, ensuite il y a eu Hellfire. Et ce qui les caractérisait, c'était le côté un peu trash. Il fallait que ce soit un peu sale. Il fallait que ce soit un peu dans l'obscurité, dans des caves. Alors que, postérieurement, ce que j'ai observé en France, pas du tout. En France, ça n'était pas trash. En plus, aux États-Unis, n'importe qui pouvait venir. C'est-à-dire que c'était pas cher du tout. C'était même gratuit pour les femmes et même pour les hommes, puisque dans ce milieu-là, le demandeur, c'est l'homme. Il payait une somme très modique. Et les femmes payaient rien. Les transsexuels ne payaient rien non plus. Non, les travestis ne payaient rien. Alors que en France, non. En France, au contraire, pour entrer dans un club, les hommes payaient très cher, les hommes seuls payaient très cher, et les femmes étaient invitées. Pourquoi ? Toujours parce que ce sont les hommes qui sont demandeurs et que les femmes qui sont désirées. Et ça a été comme ça pendant toutes les années. Alors, les clubs en France ont commencé à émerger dans les années 80. La grande époque, ça a été les années 90. Et à partir des années 2000, ça a régressé peu à peu, il y en a de moins en moins. Il y en a quelques-unes qui subsistent, mais elles sont de moins en moins vivantes. Mais quand même, j'ai fait une petite enquête là-dessus. Puisque moi, je ne fréquente plus tellement les clubs actuellement, étant donné que ma vue n'est plus très bonne et que dans ce genre d'endroit, il est évident que la lumière est tamisée. Bon, donc, j'ai fait une enquête pour voir si les choses avaient changé. Pas du tout. Pas du tout, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que dans les rares clubs qui existent encore, les hommes payent le prix fort, les couples un peu moins, et les femmes pratiquement rien. Donc, la demande est toujours la même. C'est-à-dire que c'est les hommes qui sont demandeurs et les femmes qui sont demandées.
Ce qui vous fait dire que dans ce monde du sadomasochisme, ce sont les femmes qui sont reines ?
Ah, j'ai toujours pensé ça, évidemment. Du moment... Vous savez, la loi de l'offre et de la demande joue toujours. C'est-à-dire, du moment qu'il y a beaucoup d'hommes qui demandent ce genre de choses et très peu de femmes qui veulent y répondre, bah, c'est elles qui choisissent, c'est elles qui sont reines, c'est elles qui disent oui, non, je veux bien, je veux pas. Évidemment, c'est un domaine où elles sont vraiment reines et je me suis toujours sentie reine. Parce que c'était moi qui décidais, c'était moi qui choisissais. Et donc, ça continue à être vrai.
Catherine Rebrier, comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait plus d'hommes intéressés par ce domaine du sadomasochisme que de femmes ?
Ah ! Alors, on entre dans un terrain miné, qui est celui de la nature et de la culture. Vous savez qu'actuellement, c'est un débat assez vif, hein ? C'est-à-dire que, dans ce qu'il est convenable de penser, c'est... Tout est socialement fabriqué, tout est socialement construit. C'est-à-dire que de moins en moins, on peut parler de nature, c'est-à-dire de ce qui est donné. Alors, ce n'est pas très bien vu hein, de penser ça, qu'il y a encore de la nature. Enfin, il y a tout de même des gens qui y croient. Hein. Ce sont les homosexuels et les transsexuels qui disent... À l'envie, dès qu'on leur parle, non, j'ai toujours été comme ça. Depuis ma plus grande enfance, j'ai eu des désirs vers les hommes, où j'étais un homme, je voulais être une femme, où j'étais une femme, je voulais être un homme. Ça, alors là, eux y croient, la nature. Mais il n'est pas bien séant de penser qu'il y a de la nature. Bon, moi, je suis obligée dans mon domaine, qui est celui du sadomasochisme, que je connais assez bien, de voir que la demande est majoritairement masculine. Alors pourquoi ? J'en sais rien. Mais il faut tout de même continuer à dire qu'il y a tout de même une sacrée différence, malgré tout, entre les hommes et les femmes. Quels sont les serial killers ? C'est les serial killers qui tuent pour des raisons sexuelles. Ce sont toujours, toujours, toujours des hommes. Il n'y a pas d'exception. Les hommes qui tuent, les serial killers qui tuent pour des raisons sexuelles, ce sont des hommes. Là, maintenant, on est dans l'actualité, les prêtres pédophiles. Excusez-moi, mais ce sont des hommes. On ne parle que de prêtres. On ne parle pas de religieuses. J'ai pas entendu dire qu'il y avait des religieuses pédophiles. Là aussi, on a affaire qu'à des hommes. On ne peut pas dire le contraire. Et je ne sais pas pourquoi, quand on dit ça, on se fait agresser. Et la majorité des gens en prison, c'est quand même des hommes. Je crois que c'est 94% des emprisonnés sont des hommes. C'est-à-dire que la criminalité, quelle qu'elle soit, est du côté des hommes. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas le nier. Alors, il y a un certain nombre de gens qui disent « Ah oui, mais c'est parce que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas encore vraiment sérieuse, que ça va changer, parce que la... » Oui, mais ça ne change pas, justement. Depuis que les femmes se sont libérées, Dieu sait si elles se sont libérées quand même depuis les années 60. Enfin, j'ai suivi ça quand même, d'étape en étape. Ben, ça ne change pas. Alors, je ne veux pas rentrer sur le domaine de la criminalité. Ça ne me concerne pas directement. En revanche, en ce qui concerne la sexualité, j'ai l'habitude de dire et de penser que... On est égal. Incontestablement, les hommes et les femmes sont égales dans leurs compétences, dans leur intelligence, dans tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui est un noyau dur qui résiste. C'est celui de la sexualité. Là, tout d'un coup, c'est pas pareil. Les fantasmes masculins ne sont pas du tout les fantasmes féminins, mais pas du tout. Et par exemple, le fétichisme est presque toujours masculin. Par exemple, Récif de la Protonne raconte combien il était adonné au fétichisme des pieds. C'est très courant chez les hommes, le fétichisme du pied. Et il se masturbe dans des jolis petits souliers féminins, en tissu souvent, je crois. Moi, j'ai jamais entendu dire que des femmes se masturbent en respirant des godillots masculins. Oh là là, j'exagère peut-être là, avec les auditeurs de France Culture en disant des choses comme ça. Mais enfin, je le constate, quoi, tout simplement, je le constate. Et en ce qui concerne les fétichismes, je me souviens d'avoir lu un petit, vous savez, les que sais-je, ces petits volumes qui étaient centrés sur le fétichisme. Et alors, il y avait toutes sortes de chapitres sur le fétichisme masculin, la main, le pied, enfin bon, toutes sortes de choses. Et il y avait un tout petit chapitre à la fin qui était sur les fétichismes féminins. Parce que on peut jamais dire les hommes, les femmes. Il y a toujours des gens qui sont hors normes, si vous voulez. Il doit y avoir des femmes qui s'excitent sur des chaussures d'hommes, hein. Ça doit exister. Il y a de vérité que statistique, finalement. Mais je remarquais que, dans ce que c'est, j'avais un tout petit chapitre sur le fétichisme féminin. Effectivement, ça n'est pas du côté des femmes, le fétichisme. Bon, alors, est-ce qu'il faut le regretter? Moi, je ne le regrette pas. C'est très bien, c'est très intéressant, cette différence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, peut-être, que j'ai toujours été étonnée que les gens ne soient pas bisexuels. C'est tellement intéressant d'avoir affaire à quelqu'un qui est votre double, ou alors quelqu'un qui est autre, tellement différent. C'est passionnant d'avoir affaire à un homme qui est tellement différent de vous. Et de voir ce qui lui plaît, comment il fonctionne. Au contraire, une femme, c'est votre reflet. Vous connaissez, vous savez comment elle réagit. Vous savez comment elle répondra. En gros, il y a des différences, il y a des individualités. Mais c'est votre reflet, c'est votre image. D'où l'image, d'ailleurs.
On parlera plus des femmes, justement, demain soir, oui. Avec vos cérémonies de femmes.
Oui.
Donc je vous dis à demain, Catherine.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Céline Duchesnay avec Catherine Robbe-Grillet. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Bernard Quentin, réalisation Vincent Abouchard, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.